La perspective de ces recherches, comme je vous le disais, c'est l'écologie développementale. Qu'est-ce que c'est ? Si on prend le terme d'écologie dans un dictionnaire, on vous dit que c'est la science de l'environnement qui étudie les interactions des êtres vivants dans leur milieu de vie habituel. D'accord ? Et c'est une perspective systémique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on parle d'écosystème, on le comprend tout de suite, que ce soit dans le monde non humain, par exemple, enfin, où les humains font partie. Je prends l'exemple, pour en prendre plein, les abeilles. Donc il y a le monde animal, le monde végétal, le monde humain, l'espace humain. Vous avez des abeilles qui vont butiner sur des plantes sur lesquelles les humains ont mis des pesticides. Les abeilles meurent. Les abeilles ayant comme fonction de polliniser, ça va avoir une répercussion qui retourne sur le monde végétal avec peut-être moins de pollinisation des arbres fruitiers, etc. Et forcément, un impact sur les humains et sur la diversité alimentaire qu'ils auront. Ou, voilà. Et on repart sur le cycle. C'est-à-dire que dans une perspective systémique, on voit que dans un milieu de vie naturel, habituel, il y a toujours des interactions qui sont des réactions en chaîne. Quand on parle d'écologie du développement, qu'est-ce que c'est ? C'est une discipline extrêmement peu, malheureusement encore très peu travaillée, qui est à la jonction, en quelque sorte, entre la psychologie du développement et la psychologie de l'environnement. Son objectif, c'est d'identifier les caractéristiques d'un environnement physique qui sont susceptibles, donc, d'influer sur le développement des enfants dans leur milieu de vie habituel. Quand l'environnement est un bon support pour les objectifs des usagers, alors le terme d'usager, quand on parle d'enfant, fait toujours un peu bizarre, pour les activités, pour l'état psychologique, pour les interactions des usagers, on dit qu'il y a une bonne adéquation environnementale avec les besoins. Les besoins, ça veut dire, quand on parle d'enfant, leur niveau de développement, hein, social, moteur, etc. Et donc, plus les usagers sont jeunes, plus ils sont dépendants des adultes et plus ceux-ci ont la responsabilité de rechercher la meilleure adéquation environnementale au niveau de développement actuel des enfants. Donc vous voyez que là, ce qui est au centre de ce travail, c'est la connaissance du niveau de développement des enfants, vraiment pour s'y adapter. Selon l'adéquation de l'environnement qu'on va donner, on va avoir soit des activités riches et des interactions agréables entre les différents partenaires, soit des pleurs, des attitudes de retrait, de l'excitation, des conflits entre enfants avec les adultes, qu'on met parfois sur le compte d'autres choses. Donc on met souvent les pleurs, etc., sur le compte de des causes internes aux enfants. Ce sont eux qui sont fatigués, ou qui ont faim, ou qui ont mal aux dents, ou qui je sais pas quoi, voilà. Ce qui peut tout à fait être vrai. Sauf que, on va découvrir avec les recherches là, qu'il y a aussi des facteurs externes qui jouent sur ces manifestations qu'on ne souhaite pas en général. Hein. Voilà. Et que il y a tout un impact de l'environnement physique sur ces comportements-là, une partie en tout cas de ces comportements-là, et qui, si on en est conscient, peut donc être rectifié, être corrigé, être rééquilibré par des propositions différentes d'aménagement de l'espace ou d'activité. Donc, si on veut aménager les espaces de jeu pour favoriser au maximum les jeux autonomes, les interactions positives, etc., il faut comprendre qu'on est dans une perspective systémique et que plusieurs facteurs rentrent en jeu. Dans une salle de classe, vous avez trois ensembles qui sont les enfants, qui sont eux-mêmes, qui peuvent varier selon différents paramètres, leur âge, leurs moyens fonctionnels, est-ce qu'ils savent marcher, est-ce qu'ils savent parler, est-ce qu'ils savent, etc. Leur nombre. Vous avez des groupes d'enfants de 8, de 16, de 20, de... voilà. Oui, ou le plus. Vous avez l'ensemble des adultes. Là aussi, le nombre. Évidemment, c'est pas la même chose à l'école et en crèche, où en général, il y en a un pour 5 chez les bébés, un pour 8, un pour 8, 10 chez les plus grands, chez les 2-3 ans, qui correspondent à l'âge de l'école maternelle. Les adultes ont aussi, comme autres paramètres, qui peuvent varier, leurs attitudes, leurs actions, leurs projections à la fois pédagogiques et personnelles aussi. Et puis, il y a les structures matérielles, qui sont l'architecture, c'est-à-dire, en général, ce qu'on ne peut pas bouger, hein. Les murs, les superficies, les poteaux au milieu, les angles morts, voilà. L'agencement des meubles qu'on peut, en grande partie, bouger, hein, donc... Et puis, les jouets, les matériaux voilà, qu'on propose comme activité. Comment les enfants occupent l'espace qu'on leur propose? Ils ne prennent pas tout des propositions qu'on leur a faites. Et donc, vous pouvez constater qu'il y a des endroits très occupés, des endroits moyennement occupés, et que certains endroits sont sous-occupés. Et que c'est du non-verbal total, mais les enfants, en quelque sorte, envoient comme message... Là, il y a des choses très chouettes, mais alors là, franchement, on n'a pas envie d'y rester. Donc les enfants ne sont pas passifs. Et les enfants sont très réactifs à leur environnement et envoient des messages. Sauf que ces messages, avec les enfants qui savent parler déjà chez les plus grands, 2 ans et demi, 3 ans, ils ne vous diront pas, verbalement, ils ne vous diront pas « c'est chouette hein, d'avoir mis un coin là » ou « c'est pas chouette là, je m'embête là ».